Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors avant de vous présenter le sommaire de cette émission, je voudrais remercier les auditeurs car le mois dernier nous avons battu des records car notre émission sur la fin du dollar avec la journaliste suisse Mirat Saki a été suivie de très près sur internet et cela grâce aux bénévoles qui diffusent nos émissions. Des records battus sur nos propres sites mais aussi grâce aux diffusions sur le site de Dailymotion ou YouTube permettant une plus large audience, mais aussi le nouveau site de Radio Courtoisie dont je vous conseille vivement d'aller le visiter si ce n'est déjà fait. Nous avons, mon cher Grégoire, je ne vous mens pas, plus de 20 000 écoutes sur cette émission. C'est énorme.
Sur le blog des chroniques de la vieille Europe,
sur le blog, sur les, sur YouTube, bien sûr, en tout. Je prendrais simplement, pour vous dire, je prendrais simplement que la mise en ligne sur Dailymotion, dont je remercie son auteur, alors le pseudo c'est Hieronymus 20.
Ah oui.
Vous voyez qui c'est? Elle dépasse aujourd'hui les 13 500 vues reprises par les sites de Fortune, d'Égalité et Réconciliation ou la page Facebook de Mirat Saki, ce qui bien sûr augmente facilement sa diffusion. Alors pour vous donner une comparaison cruelle mais vraie, j'ai été sur le site du Nouvel Observateur qui a créé sur Dailymotion une véritable chaîne TV Ops il y a maintenant 2 ans avec un studio, des professionnels comme un grand média. Et bien sûr, des invités prestigieux. Alors, l'une de leurs émissions qui s'appelle « Ça va faire mag », sacré jeu de mots, vous voyez, « Ça va faire mal, ça va faire mag ». Alors, la plus regardée, elle obtient le score de 911 vues. Pour le reste, on dépasse à peine 200. Alors, ils avaient fait aussi des émissions pour les primaires socialistes. Alors, j'ai vu que Manuel Valls, il avait eu 45 vues. C'est-à-dire une heure et demie d'émission interrogée pour 45 personnes. Ce qui montre bien que sur les médias et sur Internet, on est peut-être en train de gagner la bataille des médias. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Non ?
Si, ça existe aussi au cinéma, en salle, hein, puisque je pense que le serment de Tobruk, le BHL, a dû dépasser péniblement les 772.
Écoutez, moi, je suis prêt à faire un pari. Nous risquons de faire plus d'auditeurs sur cette émission sur le monde arabe, parce qu'on va parler du monde arabe, que le film de BHL.
Très bien.
Mais ça, à mon avis, ça sera beaucoup plus facile. Au sommaire, donc, ce soir, les révolutions arabes. Voici maintenant un an et demi que le début de ces soulèvements a commencé et que, contrairement aux imbécilités qu'on a pu entendre sur ce grand miracle démocratique, on ne peut pas dire que la situation soit aussi heureuse que dans le fameux film de Bernard-Henri Lévy, que j'avoue je n'ai pas vu.
Bon, donc, personne ne l'a vu.
Non, je ne me prononcerai pas. En deuxième partie, nous aurons normalement, comme d'habitude, notre actualité européenne présentée par Philippe Christel, qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc, pour parler et comprendre l'échec de ces révolutions arabes, plusieurs invités ce soir, mon cher Grégoire. Nous recevons Tancrède Josserand, que nous avions déjà reçu l'année dernière, pour son livre sur la Turquie, et attaché de recherche à l'Institut de Stratégie Comparée. Et il vient de sortir aux presses universitaires de France, Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, coécrit avec Florian Louis et Frédéric Pichon, dans l'excellente collection majeure dirigé par notre ami Pascal Gauchon. Bonsoir Tancrède Josserand.
Bonsoir.
Deuxième invité, Daoud Bourzala, journaliste. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du journal Causeur et vous avez souvent écrit et observé depuis le début ces révolutions. Bonsoir Daoud Bourzala.
Bonsoir.
Et alors nous devrions avoir un troisième invité, c'est Pascal Esséry qui est le journaliste et qui est le rédacteur en chef du journal Élément et qui avait sorti en juillet 2011 un dossier sur les révoltes arabes sous influence. Mais je pense qu'il va, il ne va pas tarder. Et donc pour m'accompagner ce soir, Grégoire Rambier, qui est toujours là dès qu'on parle de géopolitique, mon cher Grégoire.
Et du monde arabe.
Et du monde arabe. Nous allons peut-être commencer par l'actualité brûlante. Les tensions entre la Turquie et la Syrie continuent après que l'armée syrienne ait abattu un avion de chasse turc. Peut-on penser à autre chose qu'à une réplique diplomatique de la part des Turcs? Car dans le passé et avant le conflit, les Turcs avaient ouvert le dialogue avec la Syrie et avaient étendu son influence dans la région. Le prétexte de cette guerre civile pourrait-il être un accélérateur pour la Turquie ou une domination sur le Moyen-Orient? Tancrède Josserand, que penser de ce début de crise?
Oui, enfin la crise, on y est déjà depuis un certain temps, hein, depuis l'année dernière. Donc effectivement, il faut voir que dans les relations entre la Turquie et la Syrie, elles n'ont jamais vraiment été au beau fixe, et c'est plutôt justement le fait qu'elles soient au beau fixe qui, ces dernières années, a constitué l'exception. Alors sans trop remonter dans le passé, il faut tout d'abord voir que la Syrie, c'est quand même une construction artificielle. C'est un mandat français qui remonte en 1920, le général Gouraud. Auparavant, la Syrie, c'était un vilayet de l'Empire ottoman qui n'avait pas véritablement d'existence historique. À partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que le mandat français donc a réuni des ensembles de peuples désunis. En Syrie, il y avait des Druzes, il y avait des Alaouites, des Arabes sunnites, des Kurdes. Et dans les années 20-30, la France, à la recherche d'alliances, a commencé à se rapprocher de la Turquie, puisqu'il s'agissait à cette époque-là de faire barrage aux ambitions allemandes et italiennes dans les Balkans et en Méditerranée. Et le prix de cette alliance, ça a été la cession du Sanjak d'Alexandrette en 1938. Et contre cette cession, c'est-à-dire le Sanjak d'Alexandrette, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire peuplé de 40% de Turcs, 40% d'Arabes et 20% grosso modo de Kurdes et de chrétiens au nord de la Syrie. Et contre la cessation de ce territoire, les Turcs ont accepté de rejoindre l'alliance franco-anglaise. Soit dit en passage, il faut voir qu'ils n'ont pas honoré cette alliance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les Syriens ont toujours, les Arabes en général, ont toujours beaucoup voulu à la France de cette cessation d'un territoire qui était quand même peuplé, donc, en majeure partie quand même, d'une population arabophone. Et des années 50, grosso modo, jusqu'à 1998, jusqu'à l'an 2000, les rapports entre la Turquie et la Syrie ont été extrêmement tendus. D'une part, il y avait l'irrédentisme du parti basse, du nationalisme arabe, qui donc n'a jamais dirigé cette perte. Pour les Syriens, les Arabes, c'était une terre irrédentée. Et de la part des Turcs, il y avait effectivement l'idée qu'avec la modernisation entreprise par Mustafa Kemal, il fallait à tout prix rompre avec l'Orient, que l'islam et le monde arabe, plus généralement, étaient le miroir négatif de l'identité turque. Et donc des rapports qui ont été très tendus, d'autant plus que nos auditeurs le savent. La Syrie avait un tropisme plutôt philo-soviétique, et donc la Turquie constituait donc le flanc sud de l'Alliance Atlantique. Et il faut savoir aussi que la Turquie, c'est le château d'eau du Moyen-Orient, bien entendu. Et que donc les Turcs ont un véritable robinet, un mouslouk, on dirait en turc, sur donc le Tigre et l'Euphrate qui prennent donc leur source, en Anatolie, donc orientale. Et à partir de ce moment-là, donc, les Turcs contrôlaient donc le débit en eau de ces fleuves qui s'écoulaient, qui passaient par la Syrie, l'Irak jusqu'au golfe Persique. Et d'où des graves problèmes d'alimentation en eau pour les Syriens et pour les Irakiens. Et dans les années 80, la Syrie de Bachar et d'Afani al-Assad a beaucoup instrumentalisé donc les rebelles kurdes, le PKK, contre la Turquie. Les principales bases d'entraînement du PKK se trouvaient en Syrie ou même au Liban, dans la fameuse plaine de la Bekaa. En octobre 1998, il faut voir que la Syrie et la Turquie ont été aux deux doigts de se faire la guerre. Et il a fallu qu'en catastrophe, les Syriens expulsent le chef du PKK, Abdullah Öcalan, qui a trouvé refuge au Kenya avant d'être capturé par la CIA et le Mossad et d'être livré donc aux Turcs, pour que donc les Turcs renoncent à envahir le nord de la Syrie. Et puis progressivement, on assiste au début des années 2000 à des tentatives de rapprochement. Surtout, il faut voir qu'avec 2003, l'invasion d'Irak par les États-Unis, les lignes vont bouger. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Eh bien, tout simplement, la Syrie va se retrouver encerclée à la fois par Israël, mais aussi par l'Irak occupé par les Américains. Et donc, les Syriens vont avoir besoin d'oxygène. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont se trouver extrêmement enclavés. D'un même côté, il faut voir qu'à cette époque-là, c'est l'arrivée au pouvoir de l'AKP, et notamment de Ahmed Davoulou, qui est l'éminence grise en matière de politique étrangère du gouvernement islamiste de Tayyip Erdogan. Et Davoulou, se dit qu'il faut tendre la main aux Syriens et au monde arabe en général, c'est-à-dire que, le véritable avenir géopolitique pour la Turquie, ce n'est pas l'Occident, c'est justement l'Orient, Et donc, pour cela, il faut commencer à établir des bonnes relations avec ses voisins et principalement donc avec la Syrie, C'est ce qu'on appelle la politique zéro problème. Et donc, à partir de 2004, un certain nombre de visites à un très haut niveau vont avoir lieu entre la Turquie et la Syrie. Et les relations vont être au beau fixe entre les deux pays. Définitivement, les Syriens vont renoncer au Sanjak. Et en échange, les Turcs vont ouvrir leur espace économique. Et on va assister à la création d'une zone de libre-échange, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien voir qu'en 2011, avec les révolutions arabes, les Turcs ont été un peu pris de court. Leur idée, c'était à moyen et long terme, c'était d'ouvrir progressivement eh bien, la Syrie sur son environnement régional et en fait favoriser une évolution interne du régime bassiste. Hein. Puisque les Turcs sont quand même conscients que la Syrie, c'est quelque chose d'artificiel, c'est un patchwork, et que, bon, il ne fallait pas précipiter une démocratisation trop radicale. Et ils vont être pris de court, et disons que les Turcs vont être pris entre deux feux. D'une part, eh bien, l'amitié personnelle, les liens personnels qui s'étaient créés progressivement entre Erdogan et Bachar al-Assad, et de l'autre côté, la réelle politique, qui fait hein, que bah, la Turquie est peuplée à majorité de sunnites, hein, 70% de sunnites, et la Syrie est peuplée aussi à majorité de sunnites, 70% de sunnites. Et que la Turquie, qui se veut un modèle pour le monde musulman, ne pouvait difficilement, effectivement, eh bien, laisser le gouvernement Bachar al-Assad réprimer dans le sang, eh bien, une insurrection dont le moteur était les sunnites. Bon. Et à partir de ce moment-là, on va assister progressivement, eh bien, une remise en cause, eh bien, des relations particulières entre la Syrie et la Turquie. La Turquie va même mettre un ultimatum au mois de juin de l'année dernière pour demander à Bachar al-Assad, de faire un gouvernement d'ouverture à l'opposition, en particulier d'accueillir une dizaine de membres des Frères musulmans, ce que la Syrie va refuser catégoriquement. Et à partir de ce moment-là, on va assister à une distanciation considérable, à un des incidents majeurs, notamment comme eh bien, l'assaut contre l'ambassade de Turquie à Damas, et dernièrement donc eh bien, la réplique syrienne, avec donc eh bien, cet avion, ce F-4 Phantom, qui a été abattu donc, dans les eaux de la mer Égée. Il faut savoir en même temps hein, préciser que depuis plusieurs mois déjà, la Turquie, avec la CIA, et même certaines sources disent avec les services secrets français, entraîne donc eh bien, l'armée de libération syrienne hein, dont, au sud de la Turquie. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Et donc, effectivement, si les Syriens ont réagi, c'était à mon avis sans doute parce que effectivement l'avion, et même les Turcs l'ont reconnu, avait bien, eh bien dépassé donc, eh bien, les limites territoriales de la Turquie. Et par ailleurs, les Turcs sont quand même assez coutumiers du fait. Il faut savoir qu'il y a quasiment tous les jours, entre la Grèce et la Turquie, des incidents de ce genre. Hein. Bon, et que les Turcs sont coutumiers du genre, il y a aussi des droits de poursuite. Il faut voir que dans le Kurdistan irakien, l'armée turque régulièrement va bombarder le territoire irakien. Bon. Donc effectivement, c'est plus effectivement la concrétisation, le point d'aboutissement d'un long processus qui a pris sa source il y a exactement maintenant un an et demi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est presque un non-événement quoi ?
Oui, c'est quasiment, oui, effectivement, un non-événement. Bon. Les âges, en même temps, on parle plus discrètement hein, des ingérences turques en Syrie, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs dizaines d'agents des services secrets turcs du MIT qui ont été capturés par les Syriens et qui sont retenus à l'heure actuelle dans les geôles de Damas.
Daoud Borzala, vous suivez de près ce conflit. Pour vous, c'est exactement pareil. C'est un incident parmi tant d'autres ou vous avez l'impression qu'il est en train d'accélérer quelque chose et, comme on voit aussi au Liban en ce moment?
En fait, j'y vois surtout une conséquence du pourrissement de la situation syrienne, des suites de la militarisation de ce conflit à l'été dernier, puisqu'au départ, après les premiers incidents constatés à la frontière jordanienne à Deraa, il y a à peu près 15 mois, qui ont été très brutalement et très maladroitement réprimés par le régime syrien, on a assisté peu à peu à une militarisation du conflit, avec des attaques répétées, aujourd'hui quotidiennes, contre les forces armées syriennes, à partir de l'été dernier. Et avec, comme le disait très bien Tancred, la Turquie qui a essayé de porter à bout de bras une solution politique et a fini par y renoncer il y a à peu près un an, et qui sert aujourd'hui de réduit à l'armée syrienne libre, ou ce qui s'appelle comme tel. Également, à très court terme, on peut y voir une sorte de représailles de la Syrie contre la défection d'un de ses officiers en Jordanie, avec la complicité tacite ou probable de la Turquie. Et donc, le délitement de l'armée syrienne, qui devient de plus en plus certain également, entraîne un regain de tension avec ses voisins.
Comme le Liban, vous avez, en ce moment le Liban qui voudrait rester neutre, on sent qu'il commence à avoir cette neutralité que les institutions libanaises voudraient mettre en place reste plutôt lettre morte là-dessus.
Oui, on connaît le grand jeu syrien au Liban depuis des décennies, notamment qui se cristallise aujourd'hui à Tripoli avec des affrontements entre sunnites alaouites, sûrement plus ou moins manipulés par des services syriens et également des partis libanais sur place, et une affaire également libano-turco-syrienne qui met aux prises la Turquie, le Hezbollah et la Syrie, dont on parle assez peu en France. C'est l'enlèvement de plusieurs pèlerins chiites à Alep, chiites libanais, par un groupuscule qui se réclamerait de l'opposition syrienne, mais qui ne serait pas l'armée syrienne libre, enfin, aller comprendre quelque chose. Et ce groupuscule qui reproche notamment au secrétaire général du Hezbollah ses positions de solidarité avec la Syrie, qui exige une reprise en main du Hezbollah, donc une renationalisation du Hezbollah, une prise de distance avec la Syrie. Et cette affaire reste au point mort avec la Turquie, qui était censée servir d'intermédiaire, qui nie héberger les geôliers et les otages. Et donc, ça illustre un petit peu le pourrissement de cette situation régionale.
Sur ces conflits, que ce soit le Liban et la Turquie, le rôle de l'Amérique dans ce début de conflit syrien, on dit qu'il hésite. Il y a une vidéo qui, en ce moment, est en train de faire le tour de cette intervention de Ron Paul, qui, devant la Chambre des représentants, accuse clairement les néoconservateurs de remettre leur pion en place. Est-ce qu'on n'est pas entre les deux? Les Américains sont en train quand même de maîtriser un minimum ce qui se passe. Pascal Essérique.
Ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout à l'heure, j'entendais Tancrède dire que c'était un secret de polichinelle, le fait qu'il y avait quelques agences. La semaine dernière, le New York Times a révélé, et par une voie tout à fait officielle, a révélé donc qu'il y avait bien les États-Unis fournissaient des armes à l'armée syrienne libre, les équipait. Le rôle des États-Unis, pour le coup, est devenu officiel depuis une semaine, depuis la semaine dernière.
Mais en réalité, c'est quelque chose d'assez ancien, puisque dès 2004-2003, eh bien déjà, nous avions le projet des néoconservateurs avec George Bush, le Grand Moyen-Orient. Alors ce projet, effectivement, il a été de remodelage en fait du Moyen-Orient. On connaît tous la fameuse carte de Ralph Peter, donc de redécoupage qu'on appelle les frontières du sang, donc de redécoupage ethnico-religieux de la région, ce qui rendrait en fait la région plus cohérente. L'idée, ce serait qu'il y aurait moins de conflits s'il y avait un terre, une peuple. Eh bien, cette idée, on la pensait plus ou moins abandonnée avec l'élection de Barack Obama, mais en réalité, en 2009, le fameux discours d'El-Azhar de Barack Obama, en juin 2009, eh bien, c'est le projet d'islam justement modéré qui reprend quand même, malgré tout, eh bien, les grandes lignes de ce projet de Moyen-Orient. Donc l'idée, ce serait justement de faire un croissant, non pas d'instabilité du Maroc jusqu'à l'Iran ou l'Afghanistan, mais un croissant de stabilité qui passerait justement par l'alliance entre l'islam, la démocratie et l'économie de marché. Et pour ça, donc, il faut mettre à bas ces vieux régimes autoritaires, laïcs et autoritaires, qu'il y avait donc en Tunisie, en Égypte et bien entendu en Syrie. Et dont la Turquie, jusqu'à ces dernières années, était aussi l'un des exemples.
C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la stratégie reste la même, mais ce sont les méthodes qui changent.
Oui, ce sont les méthodes qui changent, oui.
Alors, autre actualité sur ces printemps arabes, c'est l'arrivée des frères musulmans au pouvoir en Égypte. Alors, Pascal Essérique, en lisant votre dossier dans Éléments, on peut en tirer facilement une conclusion, c'est que si l'Europe et particulièrement la France est plutôt inquiète de voir le pouvoir islamique arriver en Tunisie, en Libye et aujourd'hui en Égypte, l'Amérique ne l'est pas du tout, ayant une stratégie, et on en parlait tout à l'heure, au Moyen-Orient, contrairement à l'Europe. Puis ils ont travaillé sur le terrain et depuis longtemps ont de véritables interlocuteurs chez les frères musulmans, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe ou de la France.
Oui, pendant longtemps, on a dit qu'il y avait une école française qui s'intéressait au Moyen-Orient, qui s'intéressait au monde arabe.
C'est un peu arrêté en Tunisie.
On ne peut que constater que si les États-Unis ont une vision qu'on peut condamner ou accepter, ont une vision du monde arabe, la France et l'Europe en particulier n'en a aucune. Donc elle s'inquiète, mais elle s'inquiète sans même savoir de quoi s'inquiéter. Et les États-Unis, effectivement, et Tancrède a notamment fait référence au concept de l'islam de marché de qui avait été développé par Patrick Henry, où on a pu voir des liens entre les nouvelles religiosités islamiques et non pas l'islamisme, mais des nouvelles religiosités islamiques et les États-Unis et l'économie de marché et le voilà et ils ont accompagné en fait depuis une dizaine d'années ou même une vingtaine d'années, ils ont accompagné ce mouvement d'islamisation des sociétés arabes qui reposait finalement à la fois sur le Coran et sur le, pour un mot rapide, le Coran et le dollar. Et donc, et ça, peu de gens l'ont, enfin, si, des gens l'ont vu, mais voilà, ils ont appliqué une doctrine et ils s'en sont tenus, que ce soit George Bush, Bill Clinton ou Barack Obama. Sur ce point-là, il y a eu une constante.
Grégoire Gambier.
Oui, je voulais juste reprendre. J'ai entendu Tancrède Josserand parler de la Syrie comme d'un état artificiel. C'est sans doute pas tout à fait inexact, sauf qu'il est sans doute un peu moins que la Jordanie, la principauté de Monaco jordanienne locale, ou que le Koweït, par hasard. Je rappellerai aussi pour nos auditeurs que les principautés, enfin les émirats de Damas et d'Alep sont parmi les plus anciens de la région. Mais à la limite, pourquoi pas? Moi, ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que la Syrie, malgré tout, c'est symboliquement et territorialement le dernier sanctuaire dépositaire du nationalisme arabe de la fin du 19e siècle. Puisqu'on sait bien le sort qui a été réservé à l'Irak. L'Égypte, on vient d'en parler, était depuis très longtemps. On n'était plus dans nasserienne, mais en tout cas, elle restait militariste.
Même si le candidat de nasserien a fait curieusement plus de 20% des voix aux dernières élections, ça a été le troisième homme de l'élection égyptienne. Mmh. On en a peu parlé. C'était assez. Je vous laisse poursuivre.
On connaît beaucoup de mouvements qui
ont souvent de la nostalgie
pour 20%, mais qui ne changent pas la réalité des choses. Donc là, je parle plus de la réalité. C'était de l'appareil d'État syrien qui était un peu le dernier représentant, il l'est toujours un petit peu, de ce nationalisme arabe. Et donc j'ai envie de vous poser la question à nos deux invités vedettes du soir. On a l'impression que les révolutions arabes, au fur et à mesure où elles avancent, enterrent ce nationalisme-là, cette modernité un petit peu importée, très européenne, qui est celle du nationalisme arabe du XXe siècle, et l'enterrent au profit de mouvements identitaires, qu'on pourrait qualifier d'identitaires, en tout cas d'islamiques, archéo-futuriste, pour reprendre une expression que je crois Tancrède Josserand vous avez utilisée à propos de la Turquie. Alter-moderne, archéo-futuriste. Donc ma question est double. Est-ce que cela veut dire que nous entrons dans le 21e siècle par ce basculement et un peu l'adieu au siècle des nationalismes laïcs au profit donc d'une reconfiguration plutôt sur les fondamentaux ethniques et religieux? Et subsidiairement, mais ce n'est pas neutre, en tout cas pour le cas syrien, est-ce que nous assistons à une reconfiguration sunnite du monde arabe?
Alors, Tancrède Josserand et après Daoud Bordella.
Je dirais qu'on entre au XXIe siècle par la postmodernité. Alors, j'entends par postmodernité, c'est-à-dire la régression, non plus des cadres étatiques, de l'État-nation, du modèle de l'État-nation tel qu'on le connaît en Europe depuis Vespalie, depuis 1648, vers un ordre néo-féodal, vers le clan, vers la tribu. Mais justement, cette régression, on va dire, vers la tradition, elle correspond parfaitement à l'Orient, puisque dans le monde musulman, l'appartenance qui est d'abord reconnue, c'est la tribu. Et ensuite, après la tribu, l'idée d'État n'existe pas véritablement, et encore moins celle de la nation. Il y a ensuite la religion, donc l'islam, la Oumma, la communauté des croyants. Et justement, le grand conflit du XXe siècle, il a eu lieu entre l'État-nation et la volonté divine, c'est-à-dire que l'un s'oppose à l'autre. L'État-nation, c'est la volonté entre guillemets du peuple, c'est le contrat social, c'est la volonté générale. Donc, en quelque sorte, c'est la divinisation de l'homme qui s'oppose donc à la volonté divine. Et donc, on a assisté donc à un conflit donc durant tout le XXe siècle. C'est pour ça que les islamistes au Moyen-Orient ont été aussi opposés justement à l'idée d'État-nation et au nationalisme arabe en général. Il n'y a qu'à lire les propos de Saïd Kopt qui condamne le célèbre penseur islamiste égyptien qui condamne formellement le nationalisme comme étant une forme de tribalisme qui divise la Oumma, la communauté des croyants. Pour en revenir au nationalisme arabe et au nationalisme syrien, eh bien, il faut comprendre que même dans le nationalisme syrien, il y a quand même, vous avez un peu généralisé, il y a quand même plusieurs tendances. Hein. On va dire que le nationalisme syrien, parmi les, pour les nationalistes arabes, il est quand même pas totalement en odeur de sainteté, puisque depuis les années 60, il est accusé de déviationnisme, voire même de communautarisme, puisque c'est une communauté, ce sont des communautés alaouites et chrétiennes qui ont mis la main, justement, eh bien, sur l'héritage nationaliste arabe.
Donc, ce sont des chrétiens qui sont à l'origine du Parti Basse.
Oui, je sais, mais pas que ça. C'est-à-dire, il faut voir que Bitari, mais aussi Michel Alflaq s'est quand même converti à l'islam sur son lit de mort. Bon, ça...
Il y en a d'autres.
Hein.
Ça mange pas de pain.
Quoi. Oui, c'était pour les houris, sûrement.
Bon, donc, et c'est quand même quelque chose à relativiser. Et le nationalisme syrien n'est pas le nationalisme arabe, puisque le nationalisme arabe, eh bien, il prend quand même l'effacement de toutes les nations arabes pour la grande nation arabe, eh bien, du Maroc, eh bien, jusqu'au Golfe Persique. Bon.
Oui, ça commençait par la Grande Syrie dans le projet. Mais
on va avoir la réponse. Je profite aux auditeurs de dire que vous êtes sur Radio Courtoisie, que vous êtes dans les Chroniques de la Vieille Europe, et nous recevons pour ce printemps arabe, cet échec, cette actualité sur ces révolutions arabes, Tancred Josserand, Daoud Bourzala et Pascal Essérik, et nous en sommes pour l'instant sur la Syrie et le nationalisme. Daoud Bourzala, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, avant de revenir sur la question de la défaite idéologique du nationalisme arabe, tout d'abord la comparaison entre le Koweït, les monarchies traditionnelles arabes et la Syrie comme nation artificielle. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'artificialité de tous ces pays. Simplement, je pense que la comparaison n'est pas opérante. Simplement parce que dans des pays comme le Koweït ou la Jordanie, l'allégeance fonctionne de manière tribale, via également le roi de Jordanie qui est gardien des lieux saints, via une allégeance religieuse. En Syrie, le pouvoir des Assad et le pouvoir bassiste en général, depuis la révolution de 1963, puis la révolution de rectification de 1970 de feu Hafez al-Assad, donc c'est la conséquence directe ou indirecte du mandat français, puisque vous savez bien qu'il y avait un État alaouite et que les Français ont favorisé notamment l'inscription des alaouites dans des écoles militaires, ce qui a donné la fameuse lignée des Assad dans l'aviation syrienne. Et Michel Seurat, dans son ouvrage fondateur il y a presque 30 ans, L'État de barbarie, écrivait même qu'au début du siècle, il aurait été impensable qu'un alaouite reste vivant, ne se fasse pas empaler à Hama, alors qu'aujourd'hui, évidemment, il contrôle l'essentiel des leviers du pouvoir. Pour ce qui est de la défaite idéologique du nationalisme arabe, là encore, je suis d'accord avec vous, mais je la situerai plutôt en 1967, la guerre des six jours, lorsque Nasser et la Syrie ont été balayés par Israël et ont été complètement condamnés en 1973 via la guerre du Kippour, avec cette espèce de regain de fierté et d'honneur via les monarchies du Golfe et donc via des modèles construits sur l'islam conservateur contre le progressisme socialiste, arabiste, tiers-mondiste. Pour ce qui est également du discours nationaliste actuellement en Syrie, pour avoir vécu et travaillé pendant presque un an, à mes yeux, c'est largement une coquille vide. C'est-à-dire que, a fortiori, depuis le déclenchement de la guerre civile, ou ce qui ressemble fort, évidemment, vous avez des slogans rassembleurs du pouvoir, par-delà les confessions, par-delà l'axe islamo-chrétien, mais il n'empêche, chacun est regroupé sur sa tribu, sa confession, qu'un mariage mixte en Syrie, ça signifie un mariage entre un grec catholique et une protestante, et que les choses ne se sont pas arrangées depuis le pourrissement de la situation.
Une question.
Oui, allez-y, Grégoire Gambier.
Donc, du coup, enfin, je rejoins tout à fait votre analyse. Hein. Je posais la question, mais malgré tout, symboliquement, on voit bien que ça peut être une bascule et que ça peut être, on aime bien, hein, dans les analystes occidentaux dans leur siège, essayer de trouver des éléments qui permettent de qualifier une bascule. Voilà, donc pourquoi pas la disparition de la Syrie bassiste, en tout cas, comme le dernier verrou représentant donc l'idéologie du 19e siècle. Du coup, que pensez-vous du bruit, de la thèse qu'on en entend parfois, du scénario de l'État alaouite, de la reconstitution d'un État alaouite comme repli, effectivement, du régime, donc dans sa zone géographique d'origine, et donc contrôle le Liban.
Alors on peut dire que c'est pas un scénario, c'est une réalité, puisqu'on assiste déjà depuis le mois de mars au transfert donc d'un certain nombre d'unités de l'armée syrienne, et notamment de leurs missiles, en direction donc de la montagne Annaouit et de l'Attaquier. Donc en plus, l'avantage de l'Attaquier, c'est que c'est un port qui donne donc sur la Méditerranée, et donc ça permettrait donc de garder contact avec le monde extérieur, et en particulier, vous l'avez compris, avec la marine russe qui fait des relâches et bien dans les ports syriens. Donc effectivement, c'est un scénario qui actuel est envisagé en plus haut lieu parmi les responsables syriens, mais c'est vraiment la solution du désespoir, c'est-à-dire que si on perd le contrôle de Damas, eh bien on ira se réfugier dans le réduit, et après advienne qui pourra. Mais en même temps aussi, c'est aussi une arme de dissuasion pour dire nous n'abandonnerons pas la lutte, et il n'y aura pas de transition, et nous regardez, nous sommes prêts à nous réfugier dans ce réduit.
Il n'y aura pas de paix.
Voilà.
Juste une remarque, je pense qu'il faudrait suivre de très près les manœuvres russes en la matière, puisque évidemment la Russie a installé une base navale à Tartous, non loin de l'Attaquier. Et que, en plus de cette base, il y a aujourd'hui une autre base à Kessab, une base d'écoute et d'observation qui permet à l'armée syrienne d'observer les manœuvres de l'armée syrienne libre de l'autre côté de la frontière et également les manœuvres turques. Donc je pense que la Russie, dans sa volonté d'accompagner la transition, du moins de faire émerger une solution politique en Syrie, pense à cette option qui est effectivement la moins optimiste aux yeux du régime de Damas.
Je voudrais revenir un peu en arrière et avoir peut-être une vue d'ensemble sur ces révolutions arabes, comme vous le faites dans votre livre Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. On s'aperçoit que l'effondrement de l'Empire ottoman, et vous le rappelez justement, commence aussi par l'économie sous la pression de l'Europe et des marchands qui vont avoir de plus en plus de privilèges. Et c'est la France qui, à l'époque, avec le système de capitulation en 1535, fait rentrer le ver dans le fruit. Est-ce que les Américains sont pas en train de jouer exactement le même jeu depuis un moment, c'est-à-dire d'éjecter l'Europe de ce monde arabe et de faire tomber ces nationalismes qui, de toute façon, comme le disait tout à l'heure Daoud, depuis les années 67-70 avec la fin de Nasser, est en train de s'écrouler tout doucement. Est-ce que ces révolutions sont simplement un accélérateur d'une tendance qui a été mise en place depuis déjà pas mal de temps?
Disons que la comparaison avec le régime d'équipe de capitulation, à mon avis, est un peu étrange dans la mesure où, à l'heure actuelle, je ne pense pas que les États-Unis aient vraiment besoin d'acheter.
Amérique et les Émirats,
D'acheter donc des privilèges. Bon, il faut voir que l'économie égyptienne, à l'heure actuelle, c'est les sous perfusion américaine. Bon, l'économie israélienne, une partie de l'économie israélienne, il n'y a qu'à penser d'ailleurs que les deux armées égyptiennes et israéliennes donc reçoivent, ou même l'armée turque, reçoivent une partie de leur assistance matérielle de la part des États-Unis. Donc
c'est des capitulations à l'envers, en fait.
Donc ces capitulations à l'envers, c'est quelque chose qui est extrêmement vieux. Bon, non, là, il y a plutôt l'idée d'une reconfiguration idéologique qu'il n'y avait pas auparavant donc chez les Anglo-Saxons. C'est quand même quelque chose de nouveau. On veut passer, les Anglo-Saxons veulent passer de l'influence politique donc au reformatage idéologique. C'est-à-dire qu'ils se sont accommodés jusqu'à ces dernières années du système de laïcité autoritaire, et maintenant donc ils veulent passer au système de la démocratie islamique. C'est là la grande nouveauté.
Daoud Bourzala.
Oui, pour ce qui est de la position de l'Europe, je dirais qu'elle s'est retirée toute seule, peut-être en renonçant à faire de la politique, quitte à faire de la morale en Libye via l'opération de l'OTAN, en Syrie via des condamnations qui restent lettres mortes. Et on pourrait ajouter l'Union européenne, la démocratie libérale, combien de divisions, comme aurait dit Staline.
Pascal Essérique, vous qui connaissez bien le dossier égyptien, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que l'armée reprenne le pouvoir, ou définitivement les frères musulmans vont arriver à prendre le pouvoir.
Eh bien, ça fait à peu près, je sais pas moi, 70 ans que les frères musulmans sont font de la politique eux, et donc là ils en ont encore fait, c'est-à-dire que ils ont mis à profit ces dernières semaines et ces derniers mois pour passer des accords avec l'armée. Les premières déclarations, et on voit que les frères musulmans, les premières déclarations de Mohamed Morsi ont été très prudentes. Il a indiqué qu'il voulait prendre un vice-président copte. Il a indiqué qu'il laisserait bien évidemment et l'intérieur et le ministère de la Défense et des Affaires étrangères à un représentant de l'État profond, enfin de l'armée, en gros. Donc, est-ce que le... Bien sûr, tout est possible, mais on a bien vu que là, en tout cas, cette semaine écoulée, ce jeu diplomatique entre d'un côté les frères musulmans et les représentants des forces armées, qui n'ont pas, qui malgré une défaite électorale forte, puisque Ahmed Shafik a quand même été battu sèchement, gardent leur position.
Alors, vous parliez d'islam politique. Alors, contrairement à ce qu'on nous raconte, parce qu'en France, on a une tendance à tout mélanger, les salafistes, Al-Qaïda, l'islam politique, les frères musulmans sont effectivement pragmatiques. Ils ont même un peu évolué sur leur position sur Israël. Est-ce que c'est l'arrivée du pouvoir qui leur donne ce côté pragmatique
Mais en fait, depuis une vingtaine d'années, on a pris un mot, le mot islamisme, et on nous l'a envoyé dans la figure comme une tarte à la crème. Et le problème, c'est que depuis 10-20 ans, c'est qu'on a, pour analyser cette situation, on a plein de crème dans les yeux, et donc on n'arrive plus à voir qui est qui fait quoi, et donc on s'est aperçu, enfin en tout cas dans les médias, que les frères musulmans n'étaient pas seuls représentants de l'islamisme, qu'ils avaient des salafistes, mais que à leur droite, qu'ils avaient aussi à leur gauche, bon, je caricature un peu, enfin, ils avaient aussi des représentants de la société civile qui eux aussi étaient islamisés en fait. Et il faut, il y a tout un travail de finalement de classification, d'identification à faire, qui est colossal. Pour retrouver un petit peu d'intelligibilité dans la situation politique égyptienne, certes, mais du monde arabe aussi.
Et Oun Bourzala, sur l'islam politique.
Oui, je voulais surtout interpeller Pascal. Une question, est-ce que le coup d'État militaire en Égypte n'a pas déjà eu lieu avec l'espèce de réforme institutionnelle qui a été mise en place par l'armée ? Non seulement la dissolution via la haute cour constitutionnelle du Parlement à deux tiers islamistes, il me semble, frères musulmans et salafistes, également une situation un petit peu inédite puisque
l'armée est le pouvoir législatif aujourd'hui en Égypte, oui. Et c'est l'armée qui a dans ses mains le pouvoir législatif. Mais ça fait partie de la négociation, enfin je pense que ça fait partie de, effectivement de cette négociation âpre entre les frères musulmans et les forces armées.
Allez-y, Daoud.
Non, j'avais encore une question. Est-ce que finalement la seule arme entre les mains de Morsi, ce ne serait pas les manifestants de la place Tahrir, étant donné qu'aujourd'hui c'est un président qui a été élu pour on ne sait quelle durée, avec on ne sait quelle prérogative ?
Exactement, je crois que vous avez raison. Et puis surtout, il a été élu. Pour combien de temps il a été élu pour une mandature qui n'est pas fixe. Il va y avoir une nouvelle constitution et c'est pas lui qui va l'écrire, donc c'est un petit peu c'est un petit peu curieux.
En fait, en ce moment, en Égypte, il n'y a plus d'institution claire et nette sur le plan de.
Oui, si il y a une institution, c'est l'armée, c'est le conseil des forces armées.
Ça reste réduit.
Non, c'est pas réduit. C'est absolument pas réduit.
Ils ont toute l'économie.
Voilà. Non, quand je dis réduit, c'est-à-dire qu'en fait, le président lui-même, il est il n'a aucun pouvoir. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
Si, mais limité. En fait, on a une forme de hiérarchie, en fait. C'est-à-dire, l'armée, hein, c'est comme en Algérie, ou en Tunisie, ou même en Turquie, jusqu'à une certaine époque. Eh bien, elle dirige, mais elle ne gouverne pas. Donc, en fait, elle tire les ficelles grâce au conseil donc des forces armées, ou en Turquie, c'est le conseil de sécurité nationale, mais elle ne s'expose pas aux aléas de la vie politique. Ce qui permet, justement, de préserver sa réputation et de ne pas directement se mouiller donc dans les affaires et dans la gestion quotidienne, ce qui est beaucoup plus adroit, hein, de la part de l'armée. Et donc, on va assister là donc à un partage des responsabilités.
Mais Tancrède a tout à fait bien défini la situation égyptienne. Je crois que là, pour le coup, on peut faire le parallèle avec la Turquie il y a une quinzaine d'années.
Exactement.
Il y a aujourd'hui au sein du Conseil des forces armées. Une prépondérance de l'appareil militaire dans toutes les la vie économique égyptienne, que ce soit il faut voir le patron du supermarché du supermarché au Caire, c'est un colonel. Le fabricant d'eau de l'eau nationale, c'est un général qui le détient. Donc l'armée représente beaucoup. C'est une force à la fois militaire, militaire et économique, qui en plus reçoit, je le rappelle, 2,5 milliards de dollars par an des États-Unis.
Alors, vous êtes bien sur Radio Courtoisie aux Chroniques de la Vieille Europe et nous recevons en ce moment Tancrède Josserand pour son livre Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, coécrit avec Florian Louis et Frédéric Pichon. Nous avons aussi dans le studio Daoud Bourzala, qui est rédacteur en chef adjoint du journal Causeur, et Pascal Essérick, qui est le rédacteur en chef du journal Élément. Alors, je voudrais revenir un peu par rapport à la région. C'est la vision souvent simpliste que l'on a sur le monde arabe, et c'est que sa géopolitique et son unité seraient la religion. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses, l'islam. Alors, visiblement, l'Afrique du Nord, si je vous ai bien lu, est à peu près homogène, ce qui n'est pas du tout le cas du Moyen-Orient. Et si on devait diviser encore entre chiites et sunnites, on simplifie aussi. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait une différence entre les chiites iraniens et les chiites du monde arabe. Tancrède Josserand, comment on se sort de ce guépier pour expliquer l'islam sur un plan géopolitique?
Je reprendrai les mots du général de Gaulle. Hein. Pour aller en Orient, il faut avoir des idées simples. Donc, et faire le plus simple possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'unité, on va dire, ethnique ou linguistique au Moyen-Orient.
Bon, ni même religieuse.
Ni même religieuse, ni même géographique. On va dire un peu plus religieuse. Et je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'unité, tout d'abord, dans la mesure où l'Orient se divise en trois grandes aires. Une aire touranienne, le peuple turcophone. Une aire de peuple persanophone, donc parlant une langue indo-européenne, le turc étant une langue ouralo-altaïque venant d'Asie. Et enfin, une aire arabophone, donc avec des langues à caractère sémitique, dans lesquelles aussi on peut donc inclure l'hébreu. Et qu'est-ce qui fait donc la glu de cet Orient compliqué? Eh bien, c'est tout simplement l'islam, puisque donc c'est la pratique religieuse, hein, l'orthopraxie qu'on retrouve la plus répandue, donc, eh bien, du Maroc jusqu'à l'Afghanistan, effectivement. Et l'islam, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas simplement, je vais enfoncer des portes ouvertes, ce n'est pas simplement donc une croyance, hein, c'est pas une réponse angoissée à la question du salut, c'est aussi donc un ordre politique, hein, une façon d'agencer donc son quotidien, hein, mais aussi donc eh bien l'organisation de la cité. Voilà. Et donc il n'y a qu'à voir dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'islam? L'islam a façonné donc une civilisation islamique brillante, hein, qui il y a deux figures dans cette civilisation islamique brillante, hein, c'est d'un côté le citadin, l'urbain, et de l'autre le nomade. Et il y a un jeu dialectique entre les deux. L'un ne peut pas subsister sans l'autre. Qu'est-ce que c'est que donc la ville dans le monde musulman? Eh bien, c'est le point de transit des caravanes. Bon. Et qu'est-ce que c'est que la ville dans le monde musulman? Ben, c'est là où il y a la mosquée. Et la mosquée, il y a la prière qui se fait 5 fois par jour, et on a besoin de quoi? Eh bien, d'une horloge pour mesurer le temps. Bien. Mais dans une mosquée, nous avons aussi besoin de quoi ? Eh bien, d'installations complexes qui sont des installations pour les ablutions rituelles. Et ça, effectivement, on ne les trouve pas dans le désert. Hein. C'est la question de l'eau. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore dans la ville islamique ? Eh bien, nous avons des madrassas hein, qui fixent effectivement les dogmes de la religion qui forment les clercs de la religion de l'islam. Et puis, c'est un lieu aussi de surveillance, la ville. C'est-à-dire que beaucoup plus dans les campagnes, on peut surveiller si telle ou telle personne porte le voile, accomplit donc les cinq piliers de l'islam, etc., etc. Alors pourquoi je disais qu'il y avait un jeu dialectique avec le nomade ? Mais effectivement, le nomade dans l'islam, c'est tout l'inverse du citadin. C'est-à-dire qu'on oppose souvent le nomade eh bien, qui est rustre, hein, c'est-à-dire le chamelier, hein, mais qui en même temps est courageux. Hein, c'est ce que disait Benoît Méchelin dans Ibn Saoud, c'est-à-dire qu'il parle justement eh bien, de ces guerriers arabes hein, qui le fascinent tant, hein, qui disposent de ce qu'il appelle la mouraoua, c'est-à-dire cette vertu, cette virilité justement, hein, et qui donc se taille eh bien, des territoires à coup de cimeter. Bon, eh bien, le nomade, justement, ça a été le bras armé de l'islam. C'est-à-dire que Mahomet, en fait, grâce à l'islam, a encadré justement cette pulsion guerrière, cette pulsion belliqueuse de ces tribus nomades et les a mis au service de ce projet politique qui est l'islam, c'est-à-dire l'unification des tribus arabes, non sur des bases tribales, mais sur des bases religieuses, supra-ethniques, supra-confessionnelles, supra-ethniques, oui.
Léon Borzala, sur cette vision géopolitique de l'islam, j'ai l'impression qu'en France, on est un peu largué, quoi.
Disons que j'aurais deux, trois objections à apporter à cette vision.
Ah bah allez-y. On n'a pas le droit au débat, mais on a le droit à la discussion.
Dans un pays comme la Syrie, l'appartenance confessionnelle se greffe non seulement au lien national, mais également à des enjeux géopolitiques. C'est-à-dire qu'évidemment, la constitution stipulant que le chef d'État doit être obligatoirement musulman, via des fatwas obtenus par des amis saoudiens, des mariages, des arrangements, etc., les alaouites ont été décrétés musulmans. Alors même qu'il s'agit d'une hérésie, bon, c'est un débat sans fin de théologiens musulmans. De la même manière, les alaouites, depuis 30 ans, au gré de l'alliance avec l'Iran en Syrie, ont été rattachés à l'école chiite dominante en Iran. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de jaafarisation des alaouites. De la même manière, un druze syrien ou libanais ne se définira pas de la même façon dans son rapport à l'islam dominant, selon, bien sûr, sa nationalité et également ses allégeances politiques. On connaît la division, les fameuses divisions au Liban et en Syrie entre druzes du côté Jumblat, les familles Hamadeh, des clans rivaux d'Air Salan, etc., les massacres auxquels ça a pu donner lieu. Et en ce moment, des régimes qui jouent leur survie, comme la Syrie, essaient tant bien que mal de manipuler ces identités blessées, meurtries, avec des phénomènes comme des enlèvements entre sunnites et druzes ou entre familles druzes au sud de la Syrie.
Oui, bah alors, là, en fait, on parlait du poids de l'islam hein, sur le long terme. Hein, c'était une explication extrêmement schématique et globale.
Voilà. Alors, autre chose assez surprenante dans votre livre, c'est les minorités religieuses où on commence à voir de plus en plus dans l'actualité le massacre de telle et telle tribu, de je ne sais où, etc. En fait, vous le dites clairement que c'est une longue descente aux enfers de ces minorités depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire que c'est peut-être un accélérateur en ce moment, peut-être en Égypte, etc. Encore que, on demandera à Pascal Essérique, mais il y a une disparition de ces minorités religieuses
oui, parfaitement.
Longtemps.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué l'Empire ottoman, qui serait un empire, effectivement, tyrannique, barbare, mais l'Empire ottoman, paradoxalement, a peut-être été beaucoup plus tolérant à l'égard des minorités religieuses que les différents types de nationalisme laïque. Hein, c'est-à-dire que le système de l'Empire ottoman, c'était un système de milliettes, hein, communautariste, c'était l'unité dans la diversité, où effectivement les individus étaient jugés en fonction de leur appartenance confessionnelle. Ils avaient leurs propres tribunaux, leurs propres chefs religieux, et étaient jugés en fonction donc de leurs propres droits. Et donc, à tant qu'ils payaient l'impôt au sultan calife ottoman, et tant qu'il y avait globalement une certaine loyauté à la guerre du sultan calife, eh bien, on les laissait tranquilles. Et ça a été le cas. Hein. Bon, alors si on accepte effectivement le génocide arménien en 1915, hein, qui est l'aboutissement d'un, plutôt à mon avis, du phénomène du jeu des nationalités qu'ont manipulé les puissances occidentales au Moyen-Orient. Eh bien, globalement, jusqu'en 1918, eh bien, l'Empire ottoman avait une certaine cohérence. Hein, et on a, c'est justement, il faut quand même dire qu'en Turquie, c'est la fin de l'Empire ottoman qui sonne le glas, justement, de la présence des minorités chrétiennes en Asie mineure. Et ça, les échanges de population, c'est la République kémaliste, laïque, qui les a effectués en 1923, ce n'est pas l'Empire ottoman.
Pareil pour le paradoxe, c'est que l'Iran est peut-être l'un des pays le plus tolérant avec ses minorités, vu qu'ils ont des représentants au niveau du parlement et que leur pratique religieuse est tolérée.
Parfaitement, oui. Il y a un député israélite juif au Majlis. Il y a donc des représentants aussi des Nestoriens, hein, chrétiens, des Arméniens également. Effectivement, paradoxalement, effectivement, l'Iran est un modèle justement de tolérance religieuse, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite, où il faut quand même rappeler que les non-musulmans sont interdits de la ville sainte de la Mecque. Au Yaka, tout le monde se souvient des histoires 1990-91 lors de l'opération Dagué, où les aumôniers militaires n'avaient pas pu mettre le pied en Arabie Saoudite, les Saoudiens justifiant que c'était pour eux l'équivalent du Vatican, donc un territoire saint où donc les chrétiens ne pouvaient pas s'installer.
Sur l'Égypte, passer les séries, la minorité chrétienne, on a vu qu'il y a eu des attentats. Il y a eu. Est-ce que vous avez l'impression que cette révolution en Égypte a accéléré cette souffrance du peuple chrétien en Égypte, ou ça fait déjà un bon moment, ou alors ça ne l'est pas?
Premièrement, je pense qu'il est trop tôt, pour tirer des enseignements par rapport à la révolte, à ce qu'on a appelé le printemps arabe, en tout cas en Égypte. Je rappelle que les Coptes n'ont pas attendu le printemps arabe pour être sous le joug de l'appareil d'État ou de la discrimination, sous Moubarak, avant lui sous Sadat et avant lui même sous Nasser, sous Sadat il a existé de véritables chasses à l'homme. Alors malgré tout, la situation des Coptes en Égypte, elle est soutenue par une hiérarchie copte qui fait beaucoup de politique et qui arrive à passer des alliances avec les frères musulmans. Là, notamment, on l'a vu puisque il semble que Mohamed Morsi désigne un vice-président copte, ce qui serait quand même une première.
Boutros Ghali, par exemple,
il était ministre des Affaires étrangères, mais il n'était pas ministre d'État. Oui, exactement.
Ghali, qui était pour nos éditeurs, donc l'ancien secrétaire général des Nations Unies.
Et auparavant, ministre des Affaires étrangères de Moubarak, donc d'Hosni Moubarak.
Alors, en Europe, on va changer un tout petit peu notre programme parce que j'ai l'impression que notre ami Philippe Christel doit avoir un empêchement. Il a peut-être été pris en otage, je ne sais pas.
Son dîner dure trop longtemps.
Donc on fera une petite pause et parce que je voudrais voir avec Tancred Chypre qui est aussi un chapitre important. Pour terminer là-dessus, en Europe, on est souvent étonné par la contradiction qui a été d'un côté le printemps arabe et maintenant ce qu'on appelle l'automne islamiste. J'adore ce genre de mots de journaliste. Pourtant, c'est
il empêche de voir les choses.
Ouais. Vous le dites bien, Tancred Josserand, c'est un rejet d'un modèle occidental qu'on peut voir dans d'autres régions du monde. Il n'est pas spécifique à la région. On a vu ça un peu partout. Pourquoi on est étonné? On a l'impression, on se fait peur nous-mêmes.
Effectivement, depuis au moins une dizaine d'années, depuis le 11 septembre, on a, dans les médias occidentaux, on a quand même créé une certaine forme de, certains Frankenstein islamistes, hein. Bon, et puis, il faut voir aussi que ce réveil identitaire, hein, c'est, même si on peut le comparer à d'autres réveils identitaires en Inde, on pourrait penser, donc, avec ce qui a été fait en Inde ou même en Chine, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup plus puisque c'est de l'autre côté, hein, de la Méditerranée. Bien. Bon, mais en réalité, hein, c'est ça le paradoxe, hein, c'est ce qu'on met à la fin en conclusion du livre, c'est-à-dire que nous nous sentons agressés, eh bien, par ce qu'on appelle l'islamisation, et de l'autre côté de la Méditerranée, ils se sentent tout aussi agressés par ce qu'ils appellent l'occidentalisation. Donc effectivement, nous avons deux visions, effectivement, qui sont quand même marquées d'une certaine schizophrénie, hein, bon, et qui est assez paradoxal. Oh, et en même temps, il faut voir que ces islamistes, hein, malgré tout, eh bien, ils savent parfaitement aussi jouer, eh bien, des techniques, hein, de l'Occident. C'est-à-dire que, eh bien, les islamistes turcs, aujourd'hui, ils font des shows télévisés à l'américaine, ils se servent de Facebook, et qu'est-ce que c'est que l'islam de marché? Eh bien, ce sont des maillots de bain qu'on vend pour que les filles voilées puissent se baigner avec un maillot de bain. C'est le Mecca-Cola, c'est le Coca-Cola islamique, etc., etc. Donc une islamisation de la modernité, et non pas une modernisation de l'islam.
Oui, c'est
Pascal Essérick.
Amel Boubaker, qui est une sociologue, qui disait que qu'en fait, il n'y avait pas de différence entre la Barbie californienne et la Barbie vendue en Arabie Saoudite. Elles avaient exactement les mêmes mensurations. La seule chose, il y en a une qui était voilée, mais autrement, elles avaient les mêmes mensurations, et c'était que ça procédait finalement de la même pensée libérale, en fait.
Exactement. Et même d'une pensée tout simplement du consumérisme et du loisir, c'est-à-dire que nous autres Européens de culture chrétienne, nous sommes passé au 19e siècle, eh bien, à l'idée justement que le bonheur, hein, comme le disait Saint-Just, c'est une idée neuve en Europe, que donc le bonheur était, qu'on pouvait le réaliser sur Terre, tout de suite et maintenant. D'où l'apparition de cette consommation et de loisirs. Des fêtes comme Noël, dès qu'il y a des fêtes religieuses, sont devenues donc, eh bien, propices à la consommation. Eh bien, pareil maintenant pour l'islam, on assiste au même phénomène, c'est-à-dire que, eh bien, maintenant, en Turquie, hein, eh bien, on assiste à des ruptures de repas de ramadan, de fin de jeûne, qui deviennent de véritables fêtes et de véritables moments de consumérisme.
Daoud Borzala, sur ce sujet, sur cet islam qui rejette cet Occident et qui inquiète forcément les Européens.
Oui, alors je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Tancrède. Peut-être pourrais-je revenir sur l'intitulé de l'émission, des révolutions arabes, justement ce qui est lié à la question de l'Occident, un regard déformé qu'on porte sur ces fameuses révoltes. Je pense que avant de parler de manière définitive et catégorique d'échec, il faut se demander de quel point de vue on parle et surtout quels objectifs on assigne à ces fameuses révolutions. C'est-à-dire que du point de vue des frères musulmans et de leurs différents avatars dans le monde arabe, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si l'essai reste à transformer en Égypte. Également, évidemment, si on se place du point de vue un petit peu naïf d'un Bernard-Henri Lévy ou du lecteur moyen de Libération...
Bon, voilà, on s'est mis un peu...
Oui,
qui
se réjouissait devant les foules réunies à Tunis, libérées du joug du fameux tyran Ben Ali. Je ne suis pas sûr que tous les espoirs qu'ils avaient mis dans cette révolution, voir aujourd'hui un pays... démocratique d'un point de vue purement procédural comme la Tunisie, condamner quelqu'un à 7 ans de prison pour délit de blasphème pour avoir reproduit des caricatures du prophète Mahomet sur Facebook, je ne suis pas sûr que ce soit leur conception un petit peu naïve, idéaliste, des droits et libertés occidentales à propager à travers le monde.
En fait, ce que Daoud voulait dire, c'est qu'il va falloir changer l'intitulé de l'émission.
Oui, on le fera ou on mettra un point d'interrogation. Vous savez, on est un peu naïf dans les chroniques de la vieille Europe. On va reprendre. Je sais que Grégoire Gorbier voulait nous parler de BHL. On va juste faire une petite pause avec cette phrase que je trouve magnifique que vous mettez dans votre livre Tancrède. C'est plus vous mettez de Coca-Cola dans un pays, plus vous récoltez d'ayatollah. C'est de Régis Debray. Je trouve que pour faire notre petite pause, cette phrase est très bienvenue. De retour sur les chroniques de la vieille Europe pour cette deuxième partie qui est un peu chamboulée parce que nous avons perdu en route notre ami Philippe Christel, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver. En tout cas, nous allons continuer avec nos invités. Tancrède Josserand pour son livre géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et Pascal Essérick qui est rédacteur en chef du journal Élément, et Daoud Bourzala qui est rédacteur en chef adjoint du journal Causeur. Pendant la pause, on nous a dit le titre de ton émission est nul, c'est pas l'échec de la révolution arabe, donc on va changer ça sur internet.
Vers
un échec ou un espoir, un grand espoir. Et je crois que Grégoire Rambier, on va continuer un peu, mais là dans la partie justement espoir culturel.
Oui. Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement des printemps et des révolutions arabes, parce que c'était le sujet de l'émission, et malheureusement assez peu du seul pays qui a eu le privilège, qui a bénéficié quand même d'une intervention occidentale au profit des révolutionnaires, c'est la Libye. Aujourd'hui, le résultat, c'est que c'est une bombe à fragmentation dans tout le Sahel, ce qui était largement prévisible. L'idée, ce n'est pas de revenir sur les raisons qui pouvaient justifier une non-intervention, ou en tout cas une intervention un peu plus subtile. Mais j'ai lu avec plaisir dans le numéro de Causeur du mois de juin, un article amusant de Daoud Bourzala, justement, sur le film de BHL en honneur d'auto-promotion de BHL sur sa campagne, sa guerre de Libye, parce que c'est quand même lui qui était à la manœuvre. Alors vous avez vu, donc vous êtes l'un de ceux qui a vu le serment de Tobrouk. Qu'en avez-vous pensé?
Je l'ai trouvé très intéressant, puisque au-delà des critiques un peu convenues sur le narcissisme de BHL qu'on connaît tous, moi j'y vois plutôt une sorte de quintessence du manifeste du néoconservatisme, puisque tout y est, toutes les catégories occidentalistes y sont. Gilles Herzog, l'ami de BHL, qui qualifie le Conseil national syrien de Français libre, puisqu'évidemment les deux références majeures sont la France libre et les Républicains espagnols de 1936.
Déjà sur l'affiche, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, même si on est à la radio, on peut parler d'image que l'on voit, puisque l'affiche du serment de Tobrouk, c'est bien effectivement le monument à la bataille de Bir Hakeim, enfin si je ne m'amuse.
Oui.
La symbolique,
oui,
la charge.
Le cimetière de Tobrouk, BHL a amené ses amis libyens pour jurer fidélité à la sainte démocratie et au sacro-saint droit de l'homme.
Non, ils sont un peu alignés comme les sept mercenaires. On sent que c'est eux les sauveurs.
Alors, plus sérieusement, si vous regardez attentivement le documentaire, vous y trouverez des armes pour contrer BHL sur son propre terrain, puisqu'il a quand même eu l'honnêteté de délivrer quelques scoops, notamment que ses amis libyens démocrates ont été armés et financés par le Soudan d'Omar el-Béchir, qui, je vous le rappelle, est sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité au Darfour. Également, il passe assez vite sur les questions de torture, de droits de l'homme, sur la mort barbare de Kadhafi, qu'il reconnaît quand même. Mais disons que c'est un biais intéressant pour voir le regard droit de l'homme sur le monde et les lunettes un peu biaisées de l'Occident. Et dans ces conditions, vous comprenez tout à fait qu'il calque ce schéma universel de democracy building, de state building à Fukuyama, sur la Libye, sur la Syrie. Paraît-il, l'intervention serait encore plus facile qu'à Benghazi, oui. Dixit, fameux réalisateur.
Le stratège, BHL.
Le stratège.
Voilà. Et que dire encore
Qu'on peut se féliciter que pour l'instant, personne n'ait encore suivi BHL en décidant d'une intervention militaire directe en Syrie, puisque on imagine aussi la déflagration que cela pourrait provoqué dans la région, et pour les Syriens eux-mêmes, quelle que soit leur confession.
Oui, BHL s'est réjoui d'ailleurs du grain de folie du président Sarkozy en Libye. Donc on peut se réjouir d'avoir un président normal depuis quelques semaines. Hein. Je pense qu'il sera moins audacieux, moins tête brûlée que son prédécesseur.
Voilà, ça sera notre chronique cinéma du mois. on va passer à autre chose avec vous, Tancrède Josserand. Un autre point qui est stratégique aussi dans cette région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, et qui est devenu un point de friction et d'incompréhension entre l'Europe et une partie du Moyen-Orient, c'est Chypre. Alors, que le pays prendra la présidente tournante de l'Union européenne, on est soulagé hein, de savoir que maintenant Chypre est à la tête de l'Europe, surtout qu'ils demandent de l'argent en même temps et donc ils vont pouvoir faire les deux en même temps à partir du 1er juillet. Donc ils prennent cette présidence tournante. Elle est dans une situation financière effectivement catastrophique. Les Turcs pourraient-ils en profiter de la situation, Tancrède Josserand?
Alors oui et non.
Bon. Alors, il va falloir revoir le titre.
Ah, voilà. Alors tout revoir là.
Voilà, il va tout revoir exactement.
Russes arabes, oui et non.
Enfin, je dirais que ma réponse est partagée, comme l'île de Chypre aujourd'hui qui est partagée. Tout d'abord, je pense qu'il faut être brodélien hein, et voir donc la situation de Chypre hein, sur le long terme. C'est-à-dire, Chypre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, effectivement, Chypre, c'est une île. Hein. Donc, c'est une île qui se trouve en Méditerranée orientale, qui est à 70 km des côtes turques, 90 km des côtes syriennes et 800 km de la Grèce continentale. Hein. C'est un paramètre hein, que, justement, parfois, on a un peu tendance à négliger. Et Chypre, effectivement, est le pays européen le plus à l'est, pour l'instant, effectivement, de l'Union européenne. Et Chypre, donc, va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er juillet. Mais le hic est que, justement, eh bien, Chypre va avoir affaire à un pays qui est candidat à l'Union européenne, qui s'appelle la Turquie, qui occupe depuis 1974, eh bien, la moitié de son territoire. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation très paradoxale, où un pays qui veut, donc, adhérer à l'Union européenne, occupe la moitié, donc, du territoire d'un pays qui préside l'Union européenne, et donc, en conséquence, les Turcs ont annoncé qu'ils ne, pendant les 6 mois qui vont venir, ils cesseront, donc, toute négociation et toute relation avec l'Union européenne, puisqu'ils ne reconnaissent pas Chypre. Pourquoi les Turcs refusent de reconnaître Chypre? Eh bien, tout simplement, parce que les Chypres sont intervenus en 1974 pour s'emparer donc eh bien de la moitié est de la moitié nord en fait de Chypre, et si jamais donc ils reconnaissaient donc la République de Chypre à l'heure actuelle, ils reconnaîtraient donc l'illégitimité donc de leur intervention et l'inanité donc de la présence turque au nord de l'île. C'est aussi simple que ça. Hein, pour les Turcs, eh bien, les intérêts politiques et géostratégiques passent d'abord. C'est politique d'abord. Hein, c'est vraiment le cas de le dire pour la Turquie. Donc, pourquoi justement? Alors, lié à Chypre, il faut voir aussi que c'est l'île d'Aphrodite, hein, et que vous savez, Aphrodite, qu'est-ce que c'est? C'est la déesse de l'amour. Et Aphrodite, là, c'est le cas de le dire, elle a été très convoitée. Pour quelle raison? Eh bien, si on remonte sur le temps long, bon, bah, Chypre, jusqu'au XVIe siècle, eh bien, c'était une île qui a eu diverses possessions, les Romains, les Byzantins, puis après, effectivement, les Croisés, hein, il y avait une famille française, même les Lusignans, qui pendant un certain temps a régné sur Chypre. Et en 1570, donc, les Ottomans se sont emparés de l'île de Chypre, et ils sont restés, donc, un certain temps, un peu plus de 3 à 4 siècles. Jusqu'en 1878, où là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Turcs ont eu, les Ottomans ont connu un certain nombre de déboires face à l'armée russe dans les Balkans. Les troupes russes sont arrivées à quelques kilomètres d'Istanbul. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos amis anglo-saxons sont revenus à la rescousse des Turcs et leur ont dit, on veut bien intervenir avec notre flotte pour bloquer les Turcs, les empêcher de passer les détroits, donc accéder aux mers chaudes. Mais il nous faut un petit quelque chose en échange. Hein, et qu'ont demandé nos amis anglais? Eh bien, ils ont demandé qu'on leur cède l'île de Chypre. Et donc, effectivement, les Anglais donc ont administré Chypre hein, pour le sultan jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ils ont fini par annexer Chypre en 1920. Et grosso modo, tout se passait à peu près bien jusqu'en 1950. Mais qu'est-ce qui se passe en 1950? Eh bien, l'île qui était peuplée à majorité eh bien, de Grecs, c'est-à-dire 80% de Grecs et 20% de Turcs, eh bien, sur cette île, les Grecs ont tout simplement commencé à vouloir leur attachement, hein, c'est-à-dire l'énosis en grec, eh bien, à la mère patrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, une nouvelle fois, les anglo-saxons vont faire preuve de leur duplicité habituelle, de leur art de la manipulation, c'est-à-dire qu'ils vont réintroduire les Turcs dans l'île, alors que les Turcs, depuis le traité de Lausanne en 1923, avaient donc eh bien, renoncé à tout droit sur l'île. Donc, ils ont internationalisé l'affaire. Hein. Donc, ils ont présenté à la communauté internationale le conflit comme étant un conflit entre Grecs et Turcs. Pour faire quoi? Bah pour tout simplement s'attribuer mécaniquement le statut d'arbitre, divisé pour régner. Hein, on en revient toujours là. Quel était l'intérêt géostratégique des Anglais dans l'histoire? C'est que tout simplement, après leur éviction du canal de Suez en 1956, Chypre restait justement leur point d'appui le plus à l'est de la Méditerranée. Bien. Et qu'il s'agissait donc à cette époque d'avoir un balcon sur le Moyen-Orient et de contrôler hein, ce qui restait hein, du canal de Suez. Et il faut voir qu'aujourd'hui, les Anglais ont toujours deux bases à Chypre, hein, c'est-à-dire deux bases qu'ils aient, où ils ont en pleine souveraineté, sur lesquelles sont stationnés des radars qui leur permettent d'écouter jusqu'en Sibérie. Et ces deux bases, comme ils ne font pas partie de l'espace OTAN, eh bien, les Anglais peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Donc, dans les années 50, les Anglais vont parvenir à un accord entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs. Ça va être ce qu'on appelle les accords de Lausanne et de Londres en 1960. On va créer une république chypriote, hein, qui va être une véritable usine à gaz, puisqu'il y aura un président grec, un vice-président turc, une armée mixte avec 40% de Turcs, 60% de Grecs. Bref, une véritable usine à gaz qui était totalement, qui ne pouvait absolument pas fonctionner. Et très rapidement, dans les années 60, ces situations vont se tendre entre les deux communautés. On va assister à des heurts violents, à un phénomène de purification ethnique, des massacres intercommunautaires. Bref. Et au final, eh bien, en 1974, qu'est-ce qui va se passer? Les Grecs vont vouloir une fois pour toutes rattacher l'île à la Grèce. Ils vont faire un coup d'État contre Monseigneur Makarios. Et qu'est-ce que ça, c'était les colonels grecs. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Turcs vont sauter sur l'occasion pour intervenir. C'est ce qu'on va appeler en juillet 1974 la fameuse opération Attila. Alors pourquoi Attila? Eh bien, vous le savez, parce qu'Attila a des origines turques. Hein, effectivement, les Turcs sont très fiers d'avoir Attila comme ancêtre. Attila qui est venu jusqu'en banlieue parisienne, les champs cataloniques, nous le rappelons à nos éditeurs. Et donc, cette opération Attila...
Le grand Paris, là, alors du coup, il est surtout venu jusqu'à... La légende dit, en tout cas, jusqu'en bas des murailles de Paris. C'est Geneviève qui l'a exorté les Parisiens.
Exactement, mesure, la Grande Europe, la Grande Eurasie.
Oui.
Oui. C'est pas une légende, c'est l'histoire.
Non, mais...
Ouais. Continuons.
Sur Chypre. Donc, dans un premier temps, les Turcs vont s'arranger 3% de l'île, et dans un deuxième temps, 38% de la surface de l'île, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population. Ils vont prendre donc la partie la plus riche, la plus belle d'ailleurs, c'est-à-dire le nord de l'île, ce qui correspond aussi à leur intérêt géostratégique. Il s'agissait pour eux de sécuriser leur flanc sud. Et donc, comment vont faire les Turcs? Eh bien, ils violent le droit international. Et eh bien, qu'est-ce qui va pour eux, pour les Turcs? Effectivement, l'idée, c'est que, eh bien, le droit des armes a valeur tout simplement, effectivement, de droit. Bon.
Oui, parce que à ce jour, la partie nord de l'île n'est reconnue par aucun autre pays.
Les Turcs ont fait beaucoup d'efforts pour justement procurer une certaine reconnaissance internationale. Ils n'y sont jamais arrivés. Il y a eu un cas, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan qui a essayé reconnaître à travers une région autonome qui s'appelle donc à travers le Nakhitchevan, une région autonome de l'Azerbaïdjan qui a reconnu effectivement, Chypre, effectivement, Chypre Nord. Mais ça s'arrête à ça. Tous les pays proches turcophones d'Asie centrale n'ont jamais reconnu effectivement, cette république. Donc, en droit international, n'existe pas. Les Chypriotes turcs, d'ailleurs, ont leur adresse postale. C'est en Turquie et tous les vols commerciaux doivent d'abord, avant d'aller à Chypre Nord, passer par la Turquie. Pareil pour les exportations agroalimentaires de fruits, notamment de citrons, d'oranges, etc., etc. Et donc cette république qui a été créée en 1983 n'a pas de reconnaissance. Alors les Turcs ont pensé longtemps qu'ils pourraient faire comme Taïwan, c'est-à-dire ils disent de toute façon Taïwan, regardez, ça n'a pas de reconnaissance internationale. Il y a des petits pays genre Trinidad et Tobago, le Nicaragua, etc., le Swahili qui ont reconnu effectivement Taïwan. Donc nous, on pourrait très bien faire comme Taïwan et puis on pourrait même avoir le même développement économique qu'eux. Bon. Ça passe. Justement, quand on regarde le développement économique de Chypre, qu'est-ce que c'est, pour reprendre les propos de Jean-François Drevet, c'est un département d'outre-mer au standard anatolien. C'est devenu ça, c'est-à-dire une économie qui vit surtout de la fonction publique et qui est sous perfusion. Bref. Et donc en 2002, lorsque l'AKP est arrivé au pouvoir, les membres du parti islamiste, comme vous le savez, donc veulent à tout prix entrer dans l'Union européenne, puisque avec l'Union européenne, pour eux, il s'agit de démocratiser la Turquie et donc de renvoyer l'armée dans ses casernes, l'armée qui est la gardienne de la laïcité, et la quadrature du cercle, pour eux, c'est Chypre.
Ils avaient fait plusieurs propositions pour adoucir un peu leur...
Pas avant 2002.
Ouais.
Pas avant 2002-2003. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour la première fois, donc les islamistes vont se dire qu'il faut faire effectivement quelques concessions. Donc l'AKP, ils vont se dire que la non-solution n'est pas une solution et qu'ils ne pourront jamais entrer dans l'Union européenne si effectivement ils n'apportent pas une solution à l'île, s'ils ne permettent pas une réunification de l'île. Mais attention, aux yeux du gouvernement turc et d'Ahmet Davoglu, le ministère des Affaires étrangères, il s'agit de réunifier l'île, mais aux meilleures conditions pour la Turquie. Et oui, c'est ce qu'on a tort hein, d'ignorer. Et en 2004, il va avoir ce qu'on appelle le fameux plan Annan. Donc le plan Annan prévoyait la réunification de l'île, mais ce plan Annan, il a été repoussé, il a été approuvé par 65% des chypriotes turcs, mais désapprouvé par 75% des chypriotes grecs, tout simplement parce que ce plan était malgré tout légèrement favorable aux positions d'Ankara. C'est-à-dire qu'on sera arrivé en fait à un État confédéral, au lien en fait extrêmement lâche, en fait deux États en un État, hein, ben, donc une République de Chypre unie. Il n'y aurait pas eu de droit de retour pour les réfugiés grecs. Donc les réfugiés grecs qui ont été expulsés en 1974 n'auraient pas pu venir dans la partie turque. Donc ce qui aurait valu en fait, on aurait tout simplement légitimé la présence turque hein, sur le nord de l'île. Et il n'y aurait pas eu justement de rétrocession des biens qui avaient été donc spoliés par les Turcs sur le nord de l'île. Bref. En même temps, les Turcs s'engageaient à quelques rétrocessions, à quelques ils auraient donné quelques arpents de terre, et effectivement, et bon, il y aurait eu des arrangements de ce type-là. Par ailleurs, aussi dans le cadre de cette réunification, eh bien la République de Chypre unie n'aurait pas pu donc exploiter ses ressources en gaz naturel sans la permission d'Ankara. Donc effectivement, ça aurait été une indépendance extrêmement contrôlée. Hein. Bon. Qui aurait totalement donc effectivement qui serait entré dans le giron d'Ankara pour le dire clairement. Et depuis lors, depuis ce refus par les chypriotes grecs eh bien de la réunification, la situation elle stagne aujourd'hui hein, puisqu'en 2010 on a vu la victoire des nationalistes turcs eh bien au nord de l'île. Comment expliquer cette victoire? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'arrêts qui ont été pris par la Cour européenne des droits de l'homme, et ces arrêts disent que les biens qui ont été donc spoliés par les Turcs au nord de l'île, eh bien reviennent effectivement reviennent à leurs propriétaires grecs légitimes, et que en cas de non-retour, eh bien les biens des chypriotes turcs pourraient être saisis dans l'Union européenne. Bref, donc ce qui a beaucoup refroidi les ardeurs européennes d'un certain nombre effectivement de chypriotes turcs à l'heure actuelle. Et donc aujourd'hui, on aboutit effectivement à une situation qui est bloquée. D'autant plus que la situation est bloquée aujourd'hui parce qu'on assiste aussi à une hausse de la tension géopolitique à Chypre. Puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a découvert au sud de Chypre, hein, à la jonction des eaux territoriales israéliennes et chypriotes, eh bien de très importants gisements de gaz qui seraient estimés à plus de 400 milliards de dollars. Hein, ce sont les fameux gisements Léviathan et Tamar. Bon. Et à l'heure actuelle, le problème, c'est que les Turcs se disent les Chypriotes sont en train de mettre même en dépit de leurs difficultés économiques passagères aujourd'hui, hein, même s'ils sont obligés de demander de l'argent aux Russes à l'Union européenne, ils risquent de mettre la main sur un pactole assez important. En même temps, nous autres Turcs, à l'heure actuelle, nous avons des problèmes, puisque notre projet de Nabucco, qui devait donc, transformer la Turquie en une espèce de collecteur énergétique, de déversoir énergique pour l'Asie centrale, eh bien il bat de l'aile, puisque hein, les Russes aujourd'hui ont réussi à mettre en avant leur projet de South Stream. Hein, bon, eh bien nous allons faire chantage eh bien, sur les Chypriotes en interdisant aux Chypriotes de prospecter donc ces eaux. Et aussi, il faut voir que ce rapprochement entre Tel Aviv et Nicosie aujourd'hui, eh bien, c'est le miroir de la rupture entre Tel Aviv et Ankara, hein. Et d'une rupture qui est chaque jour de plus en plus grande et qui remonte maintenant, à 2-3 ans.
Très bien, merci Tancred Josserand pour ces précieuses indications sur Chypre. On en parle peu souvent, mais là, elle est quand même à la tête de l'Europe. On risque d'entendre parler sur le plan économique, géostratégique et politique. Il nous reste quelques minutes. Grégoire Gambier, vous avez peut-être un coup de cœur, non? Pas du tout.
On va rester dans le monde arabe, à défaut, et même à l'origine de certaines révolutions arabes, puisque vous savez, comme moi, Philippe Christel. C'est pas Philippe Christel.
Il
n'est pas encore arrivé.
Non, il n'est pas encore arrivé, mais il va pas tarder. Hein.
En tout cas, 50 ans après, un bon nombre de nos auditeurs, parmi les plus jeunes, et nous avons des jeunes auditeurs aux chroniques de la vieille Europe,
on a que ça.
Ne comprennent toujours pas la résistance des partisans de l'Algérie française. Pour eux, c'est un monde totalement étranger. L'Algérie, c'était pas la France.
Je vous avoue que même il y a des périodes où j'ai quand même du mal.
Je vais pas totalement perdre les 2 minutes que vous m'accordez.
Donc, allez-y.
Bref, que nous avons bien fait de quitter cette région, que le vaste mouvement de décolonisation qui a marqué le siècle de 14 ne pouvait pas nous épargner. Certains pensent même que nous ne subirions peut-être pas une invasion à rebours sans cette aventure coloniale. Peut-être. Et encore, hein, bon nombre des pays européens, y compris limitrophes, qui n'ont jamais disposé de colonies outre-mer, n'en subissent pas moins des communautés halogènes tout à fait envahissantes dans leur faubourg. Bref, on sait bien que c'est un débat qui peut être presque sans fin, oui. Surtout lorsqu'on frise l'Uchronie, ou voire pire, hein, les jugements de valeur a posteriori.
Oui, alors là c'est encore pire.
Donc j'ai trouvé dans le dernier, dans le numéro hors série, numéro cadre de la nouvelle revue d'histoire.
Il fallait au moins hors série pour ça.
Bah, tout à fait. 50 ans.
50 ans. Ouais, ouais.
Et le monde arabe en pleine actualité. L'Algérie, histoire d'une terre tragique. Peut-être, ça ne vous étonnera pas, sous la plume de Dominique Vénère, l'analyse la plus éclairante. Donc je vais me permettre de juste citer la chute de son édito pour les auditeurs de Radio Courtoisie, si vous le permettez.
Je vous en prie.
Dominique Vénère donc, rappelle que malgré tout, on a dit beaucoup de mal des pieds noirs et des résistants de l'Algérie française, mais quand même, ce sont ceux qui ont résisté plus qu'aucun ancien colonisateur européen, sans doute, à leur abaissement historique, qui était la perte quand même des colonies. Alors je cite Dominique Vénère. Selon le point de vue adopté, on peut voir dans cette résistance un aveuglement coupable et dérisoire ou la manifestation d'un refus exemplaire d'abdiquer. La révolte à grand risque de tant de généraux et d'officiers contre l'État, qu'ils avaient appris à servir sans discussion, fut d'une ampleur sans équivalent dans nos annales. Il faut s'en souvenir, tant le fait est exceptionnel, et peu importe que cette révolte ait été mal pensée ou mal conduite, je crois pour ma part, dit Dominique Vénère, que dans une époque de déclin, cette révolte fut une manifestation de santé dont un pays peut tirer de la fierté et des raisons d'espérer. Donc je pense que tout est à peu près dit. D'ailleurs, l'éditorial, c'est des motifs de fierté, parce qu'on peut, on salit souvent la France, son armée, son aventure coloniale, les choix politiques ou historiques qui ont été faits et qui nous ont conduits dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sans doute. Mais malgré tout, il y a trop peu de motifs d'avoir un minimum de fierté, même sur quelques épisodes de notre histoire. Donc c'est le moment ou jamais, en lisant donc le numéro hors série de la nouvelle revue d'histoire, pour saluer le 50 de l'Algérie indépendante, encore qui est sans doute en plein printemps arabe, mais de façon très cachée, très masquée. On n'a pas parlé des Berbères.
Oh non, mais alors là, il y aurait tout
voilà.
Un sujet.
Et donc,
je
recommande. Vous pourrez le lire parce que
mais on plaisantait, mais la nouvelle revue d'histoire, qui est quand même l'une des meilleures, la seule et bonne revue que vous pouvez trouver en kiosque, fait toujours un travail remarquable quand ils reprennent un sujet en hors série, en règle générale, et on découvre vraiment des pans entiers de cette histoire qu'on pensait connaître. Juste pour remercier, il nous reste 2 ou 3 minutes, je remercie donc Tancrède Josserand, Daoud Bourzala, Pascal Esselric. Daoud Bourzala, le dernier numéro de Causeur vient de sortir, je crois, avec un dossier sur normal, trop normal.
Absolument.
Et une analyse de cette gauche qui arrive au pouvoir. Vous avez juste un petit mot sur qu'est-ce qu'on va y trouver et qu'est-ce que vous avez voulu analyser?
En fait, on a voulu analyser ce qui se cachait, les ressorts cachés derrière la transition qui est tout sauf une transition idéologique, et finalement l'espèce de gauche morale qui se cache derrière François Hollande. Mais bon, il y a une diversité de points de vue qui vont d'Elisabeth Lévy à moi-même, en passant par Cyril Benassar, avec notamment des articles sur le rapprochement, la convergence FN-UMP. Également, on revient sur les épisodes un petit peu tragiques de ces dernières semaines, comme le drame Ségolène Royal et toutes les questions qui ont trait à l'immigration, au multiculturalisme, avec tribune ouverte au tenant de la diversité, en tout cas du multiculturalisme ouvert, qui est Michel Viviorca, un proche de Martine Aubry, qu'on a été ravis d'accueillir.
Oui, bah, parfait, mais ça c'est l'avantage de Causeur. Je précise aux auditeurs, parce que...
Il y a aussi à lire un entretien avec Christophe Guilly,
absolument,
qui me semble assez intéressant.
Qui est excellent.
Et qui doit être un contrepoint, à mon avis, à celui celui de Michel Vivorca.
Non, absolument, absolument.
Il y a énormément de chance. je voulais juste dire aux auditeurs, parce que beaucoup de gens à chaque fois m'en parlent, me disent mais Causeur, on le trouve pas. Causeur ne se trouve pas en kiosque.
Pas encore.
Vous pouvez le trouver en allant sur causeur.fr, en l'achetant au numéro, et le mieux c'est de s'abonner. Vous vous abonnez sur leur site, sur causeur.fr, parce que en kiosque vous pouvez chercher, vous le trouverez pas. Hein. Et c'est dommage parce que c'est quand même l'une des meilleures revues du moment. Pascal et Céric, vous, votre prochain numéro d'Éléments n'est pas encore sorti, mais je crois qu'il est en cours. Vous pouvez nous en parler deux minutes. Vous faites
en gestation.
En gestation.
oui. Je vais même vous faire une petite
exclusivité. Voilà,
on va y parler des néo-réacs, des réacs de gauche, des réacs de droite, dans un dossier consacré à cette question-là. Et je crois que ce sera un dossier assez copieux et que... avec des invités prestigieux, intéressants, notamment une très belle interview de Renaud Camus.
Ouh là 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 là. Alors si vous commencez à interroger Renaud Camus, déjà que dans Causeur, je crois que ça avait déjà posé des problèmes, non, de Vanzala.
Non, je pense qu'on.
Non mais en règle générale, après on passe du côté obscur. Hein, dès qu'on interroge les gens comme Renaud Camus, on passe du côté obscur.
Non mais
donc vous avez décidé à Éléments de passer. Je remarquais que ça fait des années que vous êtes dans le côté obscur, ah. Je crois bien. En tout cas, là, vous n'êtes pas prêt de reprendre la lumière, mais on en reparlera, ou en tout cas, vous la reprendrez, mais du côté. Et ne me jetez pas de bombe, mon cher Pascal Essérique. Donc, voilà, cette deuxième partie est terminée. Je vous retrouve et on vous retrouvera dans 4 semaines, toujours en compagnie, et là, cette fois-ci, de Philippe Christel. Et je peux vous dire en exclusivité que Philippe Christel vient d'arriver.
Donc,
il est
toujours vivant.
Il ne dira pas un mot, mais il est bien là. Et on le retrouvera le mois prochain pour les actualités européennes. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Vous retrouverez notre émission sur le site vieilleurope.fr et sur courtoisie.com, c'est ça. Et vous pourrez... fr.fr, oh là là là, on fait pas de commerce à Radio Courtoisie. Et vous pourrez la réécouter jeudi soir. Bonne soirée à tous sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on.